Tu écoutes CFLC Balado,
la radio de ton magazine qui fout la chienne,
avec Pierre Duquet et Lucas Jalbert. D'après le magazine et la websérie de Lucas Jalbert et Samuel Roy, disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Une présentation de Cabron Productions.
Bonsoir et bienvenue à CFLC Balado, épisode numéro 4.
4.
Alors, c'est la radio du magazine Ça fout la chienne, magazine jeunesse. Évidemment, on s'adresse au public jeunesse, mais aussi aux parents, aux adolescents, aux jeunes adultes, à tout le monde. Et donc voilà, c'est un supplément, une branche de plus au magazine.
Une branche de céleri de plus.
Voilà.
Alors, actualité, mon cher.
On se lance directement et c'est parti.
L'actualité qui fout la chienne.
De quoi nous parles-tu, Lucas?
Eh bien, je vais te parler, pour commencer, d'un documentaire, L'inquiétante absence, qui est paru dans les derniers mois, seulement disponible pour l'instant à la Cinémathèque québécoise de Montréal, mais qu'on espère bientôt, peut-être sur YouTube ou Netflix, super écran, hein, écran, en tout cas, peu importe. En fait, le constat est assez unanime. Le cinéma de genre est très peu présent et souvent boudé dans l'univers cinématographique québécois. Pourtant, des maîtres ont laissé une trace permanente avec de grandes œuvres qui s'insèrent dans des codes bien établi. De plus, le public est toujours au rendez-vous, se déplaçant en masse dans des événements qui ont pour but de mettre de l'avant ces productions-là. Mais pourquoi ces films sont-ils marginalisés, laissant dans le paysage ce qu'on pourrait appeler une inquiétante absence, d'où le titre du documentaire. Donc, la liste des intervenants dans le documentaire est impressionnante. David Cronenberg, Robin Aubert, Mario Boivin, Roger Quentin, Éric Canuel, Roch Demers, qui est mon mentor côté jeunesse, Patrick Huard, Luc Picard, Nicole Robert, Patrick Sénécal, Yves Simoneau et plusieurs autres vous expliqueront leur vision de la chose, ce pourquoi le cinéma de genre est si souvent boudé dans le milieu québécois. Et Horreur Québec, nos amis d'Horreur Québec, mentionnaient dans leur critique que c'était une œuvre qui devait circuler dans le milieu universitaire auprès du grand public, mais également au sein des institutions publiques qui financent notre cinéma. Effectivement, moi, juste pour avoir vu la bande-annonce, ça a piqué tout de suite ma curiosité. Et oui, effectivement, il y a des laissés pour compte là-dedans. Il y a tellement des beaux films, je dirais underground, mais qui devraient pas l'être, qui devraient être beaucoup plus grand public. Et évidemment, passer à autre chose que des films comiques, comédies ou des drames épouvantables comme nos téléromans. Là, on dirait qu'on navigue juste dans ces eaux-là, mais il y a tellement d'autres possibilités.
Mais on va voir ça où?
Ben, comme je te dis, c'est disponible à la Cinémathèque québécoise de Montréal, a été présenté dans quelques festivals dans la région métropolitaine, mais on espère donc que ça va être disponible peut-être pour le grand public sur les réseaux sociaux, YouTube, les grandes plateformes numériques.
J'espère bien que, et même que Radio-Canada pourra, ou Télé-Québec pourra.
Même Télé-Québec, ça, oui, je pense que Télé-Québec, ce serait
plus pour Télé-Québec,
oui, approprié. Toi qui aimes la Seconde Guerre mondiale, Pierre.
Oui.
Le film d'horreur sur fond de Seconde Guerre mondiale accueille un premier titre foncièrement grand public. D'habitude, c'est plus pour des publics visés, d'auteurs. Plutôt du côté de l'action que de l'épouvante pure, le film de zombie, Overlord.
Oh non.
Overlord, sera.
Débarquement?
Sera sans doute ravir quiconque cherche une soirée cinéma popcorn efficace, produit par la société de J.J. Abrams, Bad Robot, ou de la série Cloverfield. Le film raconte une bonne vieille histoire simple qui s'embourbe pas dans les retournements de scénarios inutiles. Donc le personnage principal qui arrive au débarquement de Normandie est parachuté dans un village de France avec un groupe de soldats mené par le caporal Ford. Leur mission, trouver une façon de faire exploser une tour de brouillage nazi. Le problème, cette tour abrite également un laboratoire secret travaillant à un sérum de résurrection qui a de drôles d'effets sur les cobayes. Donc, disponible sur Netflix. Il y a la société Nickelodeon qui ressuscite aussi la série des années 90, Are You Afraid of the Dark? Fais-moi peur. Donc ça, Pierre, j'ai grandi avec ça. C'est ce qui m'influence aussi sur la web-série de Ça fout la chienne, entre autres. Donc, en octobre prochain, on a droit à de premières images qui ont été diffusées en août, donc le mois dernier, à travers trois épisodes d'une heure, la série présente un tout nouveau groupe d'enfants de la Midnight Society, donc la société de minuit, qui raconte une histoire autour d'un feu de camp. Parallèlement, aucune nouvelle n'est encore partagée concernant l'adaptation cinématographique annoncée depuis plusieurs mois, qui devait écrire le scénariste qui a quitté le navire entre-temps. Bon, fait que la production ne semble pas bien aller. Et enfin, côté actualité, ce soir, On est le 6 septembre ce soir, où est diffusé le quatrième épisode de CFLC Balado. C'est la sortie du tant attendu film It 2, Ça 2, donc avec le clown. Donc, est-ce que vous serez de celles et ceux qui iront flotter en bas dans les égouts pendant 2h45? Alors, on va voir les critiques, qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça. Alors, bon cinéma tout le monde.
Alors, c'est à mon tour.
De te laisser parler d'amour.
Oui. Alors moi, j'arrive cette fois-ci dans ce balado 4 avec plusieurs éléments intéressants qui concernent les légendes urbaines.
Donc, c'est le ton, on oublie de le mentionner en intro d'émission, mais c'est le ton que va aborder l'épisode d'aujourd'hui. Donc, les légendes urbaines.
Et bien sûr, je dois spécifier qu'il y a, à travers ce que je vais vous raconter, puis j'ai aussi des extraits montés, là, qu'il y a une part de légende urbaine dans des faits réels qui se sont déroulés. Comme par exemple, on va ouvrir avec le train nazi rempli d'or.
Évidemment, Pierre ne pouvait ne pas passer à côté de la Seconde Guerre mondiale.
Et ça, c'est exact. Ça fait courir les médias en Europe, là. C'était la folie, même les touristes, etc., là, qui voulaient aller en Pologne pour espérant qu'on allait découvrir ce fameux train rempli d'or dans un tunnel souterrain. Et c'est en 2015 que l'existence d'un convoi chargé d'œuvres d'art et de lingots cachés par les nazis au moment de leur défaite en 1945 aurait été révélée en Pologne sous le château Kizias dans le Wild Bridge en Basse-Silésie.
Ah.
Et là, on va écouter ce que j'ai préparé à ce sujet et je vous en donne quelques détails après si nécessaire.
Mon Dieu, j'ai hâte!
Dossier. Légende urbaine. Des chasseurs de trésors, l'un allemand et l'autre polonais, prétendent avoir trouvé la trace de ce train enseveli dans un tunnel, lui-même sous un talus, au kilomètre 65 d'une ligne ferroviaire, à l'aide d'un géoradar capable, une fois pointé vers le sol, d'en étudier la composition et la structure, jusqu'à sonder les galeries souterraines dont regorgent les montagnes de cette région du sud-ouest du pays. Jamais sorti de son anonymat, le duo aurait été mis sur la voie par un vieil homme mourant qui se serait confié sur ce magot qu'il avait contribué à camoufler. Cette année-là, l'enquête s'arrête, faute d'avoir découvert l'entrée du fameux tunnel. La rumeur persiste, puisque l'imposant réseau de couloirs souterrains creusés par les prisonniers des camps autour du colossal château Kazias, autrefois Furtsteinstein, et devant servir d'abri au Führer et à ses collaborateurs, rend plausible l'existence du train. Les autorités polonaises ont lancé d'innombrables recherches pour tenter de percer le mystère. Finalement, les chercheurs ont mis à jour le tunnel secret, mais aucun train rempli d'or n'était présent à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, des Polonais passionnés par la suite ont créé une réplique du mythique train d'or nazi. Par ailleurs, en 2018, un Russe explique sur YouTube, et je cite, « Les Polonais ne pouvaient pas trouver le tunnel simplement parce qu'ils n'avaient pas cherché de photos satellites de la région. Il est assez difficile de trouver le tunnel à cause du terrain complexe et de la forêt dense. Cependant, le train peut être trouvé si vous vérifiez les endroits indiqués par moi et les coordonnées exactes », a-t-il conclu. Le Russe est arrivé à la conclusion que le train d'or avait probablement été bombardé, ce qui explique sa disparition, car il ne pouvait plus quitter le tunnel dont l'entrée s'est écroulée sous les bombes. La locomotive remplie d'or est-elle véritablement cachée dans un lieu secret ou son histoire serait-elle qu'une légende?
Ben ça, c'est du bouche-à-oreille à un moment donné. Hein, la légende prend de l'ampleur au fur et à mesure qu'on s'en parle, puis il y a des détails qui s'ajoutent au fur et à mesure. Hein.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Et dans les légendes urbaines, oui, qui a fait l'objet d'un film quand même, tu en as déjà parlé, même on a pu voir Annabelle.
La catin de service.
Le film qui s'appelait Les dossiers Warren, qui serait basé sur une histoire vraie. Mmh. Et selon la véritable histoire contée par Ed et Lorraine Warren sur leur site officiel, l'antique poupée Reg Goody, Anne, a été achetée par une mère pour sa fille étudiante en soins infirmiers en 1970.
Et peu de temps après, la fille Donna et sa colocataire Angie ont affirmé que la poupée semblait se déplacer seule dans différentes pièces de l'appartement. Ils ont aussi déclaré que la poupée écrivait différents messages tels que « Aidez-nous » ou « Aide Lou » dans une écriture proche de celle d'un enfant.
Ah.
Et ces deux filles, pour le moins inquiètes, ont pris la décision d'amener la poupée chez un médium qui aurait réussi à communiquer avec un esprit affirmant être une jeune fille nommée Annabelle Higgins,
okay,
décédée dans un champ de maïs des années auparavant où leur appartement a été construit, l'appartement où elles étaient. Là.
Okay.
Et après cette révélation, les deux amies ont donc décidé de donner à Annabelle la permission de vivre avec elle et de l'aimer
tendrement.
Mais malheureusement, il s'avéra par la suite que ce n'était pas l'esprit d'une jeune fille qu'ils ont contacté, mais bel et bien un esprit
démoniaque. Et là, une précision là-dessus, la poupée Annabelle, ce qu'on nous représente dans les versions cinématographiques, c'est pas du tout la vraie poupée en question.
Non, et on va la voir, ceux qui écoutent notre version illustrée, oui, là, sur YouTube ou sur Facebook ou sur Ça fout la chienne. Mais c'est pas terminé. Un jour, alors qu'une amie de Donna et Angie Lou passaient à leur appartement en visite pour y passer la nuit, cette dernière se réveilla suffoquant, la poupée autour de son cou en train de l'étrangler. Alors, terrorisées, elles prirent la décision de contacter le couple Warren, le fameux couple Warren, venu enquêter sur la situation et exorciser l'appartement ainsi que la poupée. Finalement, les Warren embarquèrent avec eux Annabelle.
Voyons, on ramène ça à la maison.
C'est ça, pour ainsi l'installer dans leur musée occulte. Et après un certain nombre d'autres incidents étranges dont ils ont été témoins, le couple Warren a fini par construire un armoire vitrée spécialement pour Annabelle.
Ne pas ouvrir.
C'est ça, espérant ainsi protéger les gens de l'esprit qui l'habitent. Et depuis, l'affaire a été classée et la poupée n'aurait fait plus de mal à personne, mis à part la mystérieuse mort d'un jeune homme qui, lors d'une visite au musée, avait frappé à la vitre de l'armoire de la poupée Annabelle. Puis, lorsque vous voyez les images de la poupée, là, c'est une poupée de chiffon, là, avec un gros visage bien joufflu. Là.
Absolument, c'est pas la poupée de porcelaine effrayante avec la robe de mariée. Là.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, cette fameuse poupée, ben, je vous en parle dans la chronique Cinémaniaque.
Cinémaniaque. La chronique cinéma des passionnés de l'horreur, de l'épouvante, du fantastique et de la science-fiction. Cinémaniaque. 2014. Annabelle. En 1970, John Form est certain d'avoir déniché le cadeau de ses rêves pour sa femme Mia, qui attend un enfant. Il s'agit d'une poupée ancienne, très rare, habillée d'une robe de mariée d'un blanc immaculé. Mais Mia, d'abord ravie par son cadeau, va vite déchanter. Une nuit, les membres d'une secte satanique s'introduisent dans leur maison et agressent sauvagement le couple paniqué. Et ils ne se contentent pas de faire couler le sang et de semer la terreur. Ils donnent vie à une créature monstrueuse, pire encore que leur sinistre méfait, permettant aux âmes damnées de revenir sur Terre. Cette chose, c'est Annabelle.
Parfois, les démons peuvent s'attacher à des objets.
Alors voilà, on parle ici d'une membre d'une secte satanique en 1970. Ça te rappelle peut-être une secte en particulier?
Les années 70,
fin 60.
Oh oui, la Baby's Rosemary.
Oui, mais en même temps, ça fait penser à Charles Manson.
Oui, Charles Manson,
mais voilà,
oui,
cette période-là. Hein, bon, tout, voilà. Suite au succès de The Conjuring, les dossiers Warren et de la poupée Annabelle, dont l'affaire est utilisée comme intro, ce que tu me parlais, les deux locataires, colocataires avec la poupée, on voit ça au début du premier film, La Conjuration, sorti en 2013. Évidemment, il était logique de produire une suite qui va rapporter des sous, mais dans un premier temps, c'était un préquel, un spin-off autour de ce jouet qui est privilégié. Deux autres films ont vu le jour, l'un en 2017, La création du mal, où on remonte aux origines de la création de cette poupée au milieu du siècle dernier, et Annabelle Comes Home, donc Retour à la maison, ce que tu nous parles, donc Ed et Lorraine qui ramènent la poupée dans leur voiture jusqu'à leur maison où ils vont la déposer dans cette fameuse vitrine, qui est paru donc en juillet dernier et qui remonte le cours du temps pour revenir au couple, donc Warren. Et évidemment, la poupée va en profiter pour réveiller tous les autres artefacts maléfiques dans la pièce, puis là, de sacrer une bonne frouille à la fille de 10 ans des Warren, Judy, et ses amis, donc qui sont sur place, la gardienne, son ami, bon, etc. Je suis allé voir le film en juillet, puis après une demi-heure, j'ai dit, bon, il est temps qu'il passe à autre chose, là, qu'il passe à un autre jouet, parce que là, la poupée, on a fait plus que le tour. Hein. Mais bon, là, maintenant, je trouve qu'ils ont utilisé tous les ressorts possibles, les jumpscares en a plus fini.
Alors, le citron est pressé, voilà. Selon toi.
Exactement, il y a le temps de passer à un autre artefact.
Maintenant, on va se diriger vers un fait vécu dramatique,
oh, là,
l'écrasement d'avion. Oh, en 1972, mais ouais. Qui a eu en parallèle des situations paranormales,
okay.
Qui sont peut-être légendes urbaines, mais il y a tellement de témoignages qu'on reste perplexe. Le 29 décembre 1972, un jet Tristar numéro 310, vol 401, vol New York-Miami, vol au-dessus des marécages Everglades. Occupé à vérifier le bon fonctionnement du train d'atterrissage, le commandant Bud Luft, le copilote Albert Stockstill et le navigateur Bob Ripo ne se sont pas rendus compte que le pilote automatique avait été déconnecté.
Mmh.
Erreur ou incident technique?
Oh.
On écoute la suite.
Dossier. Légende urbaine. À 23h42, le Tristar s'écrase dans le marécage proche de Miami. Première catastrophe aérienne de cette importance aux États-Unis. L'explosion au sol du vol 401 a été une véritable tragédie. 101 morts, 34 blessés graves, 45 blessés légers. Parmi les victimes se trouvaient le commandant Bob Luft, le copilote Albert Stockstill et le navigateur Don Ripo. La commission d'enquête rendit ses conclusions un an plus tard. Erreur de pilotage. C'est alors que se produisirent les faits qu'un esprit scientifique ne pourra jamais expliquer, ni même admettre. Le 18 mars 1974, le Tristar numéro 318 est affecté au vol New York-Mexico. 203 passagers ont pris place à bord. L'hôtesse Denise Woodruff se retrouve dans la cuisine de la galerie inférieure. Elle prépare les plateaux repas pour les passagers. Soudain, elle pousse un cri, laissant tomber un plateau. Ce qu'elle vient de voir est particulièrement effrayant et incroyable. Sur la vitre du four électrique apparaît un visage. Un visage qui la regarde fixement. Denise Woodruff sort de la cuisine, tremblante d'émotion. Elle retourne à la cuisine et cette fois, elle a vraiment peur. Le visage est encore là. Denise court vers la galerie supérieure et supplie l'autre hôtesse, Lily Tracy, de venir avec elle. Mais quand elle arrive dans la cuisine, elle manque de se trouver mal. Un visage la regarde à travers la vitre du four. Les deux hôtesses bouleversées appellent le navigateur au secours. D'abord, Frank Palma croit à une plaisanterie, mais quand il arrive, il devient pâle. Ses yeux s'agrandissent d'effroi et il s'écrie « Mon Dieu, Dan !» Mon vieux Danny, le visage qui le regarde sur la vitre du four, c'est le visage de Dan Ripo, le navigateur du vol 401, mort dans l'explosion le 29 décembre 1972. Denise Woodstruff, Lily Tracy, Frank Palma assistent alors à un événement qu'ils se refusent à croire. Le visage s'anime et Dan Ripo, mort 15 mois plus tôt, leur parle. Attention Frank, le feu! Fais attention, le feu! Et le visage disparaît. Le lendemain, le Tristar 318 a juste le temps de décoller de Mexico pour retourner à New York. Une minute après, le réacteur gauche prend feu. Un atterrissage forcé sauvera in extremis la vie des passagers.
Deux mois plus tard, après ce qu'on vient d'entendre, oui. Le 22 mai 1974, le Tristar 318 s'apprête à décoller dans la cabine de première classe. La steward compte les passagers. Le dernier porte l'uniforme des commandants de bord de Eastern Airlines. Patterson vérifie, il n'est pas sur la liste des passagers. Alors, tu sais, il y a comme un commandant qui porte l'uniforme, qui est assis dans la...
Il n'y a pas d'affaire à être là.
Alors, il lui dit, excusez-moi, commandant, mais votre nom n'est pas sur la liste. Alors, le commandant reste impassible. Il regarde le hublot. Patterson insiste, mais le commandant ne répond pas. Patterson avertit son commandant de vol qui arrive aussitôt. Il regarde avec terreur le passager silencieux. Cet homme, cet uniforme, c'est son ami Bob Luft.
Il le reconnaît, là.
Le commandant du vol 401, mort 17 mois plus tôt. Quand il approche de l'apparition, Bob Luft disparaît en une fraction de seconde. Et ce n'est pas tout.
Mais bon sang, Pierre, mais que s'est-il passé? On le saura après la pause.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Alors Pierre, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on sait que la direction des Eastern Airlines avait décidé de récupérer tous les équipements électriques et électroniques qui avaient pu être sauvés de la catastrophe du vol 401 en 72.
Okay.
Soit des éléments très divers, un appareil très complet, comme notamment le four de la cuisine inférieure, et avait servi à équiper le nouvel appareil, le 318. Mais ce qui est incroyable, c'est la suite.
Oh mon Dieu, c'est déjà incroyable.
Oui, c'est ça, ça n'arrête pas. Alarmée par les révélations des membres de l'équipage qui avaient témoigné sous serment, la direction de la compagnie aérienne avait décidé, dans le plus grand secret, de prendre des mesures pour faire cesser les apparitions.
Comment tu fais ça?
La première mesure semble naturelle. On a enlevé du Tristar 318 tous les appareils qui venaient du jet accidenté.
OK.
Il y avait des esprits d'économie, eux autres.
Ben oui.
Et on l'a remplacé par du matériel neuf. La seconde mesure, la plus extraordinaire, pour la première fois, sans doute dans l'histoire de l'aéronautique mondiale, un jumbo jet a été exorcisé.
Donc, ils ont fait venir un curé, un prêtre,
ben, en fait,
avec l'eau bénite.
C'était... la délicate opération a été menée par un officier mécanicien de la compagnie nommé Dick Manning, un passionné de parapsychologie.
Eh ben.
Alors, il a fait le travail. Et jamais la direction des Eastern Airlines n'a confirmé l'effet surnaturel survenu dans son appareil et n'a reconnu avoir équipé le 318 avec le matériel prélevé sur l'épave du vol 401. Et a aussi nié avoir retiré les équipements et elle nie totalement l'exorcisme de Dick Manning.
Eh ben.
Alors, cette histoire a fait l'objet d'un livre et d'un film américain à partir des témoignages de ceux qui ont vécu cet événement. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? J'ai fait des recoupements. L'histoire est expliquée avec plus de détails au niveau du train d'atterrissage. Là, ce qui s'est passé, c'est que il y avait effectivement le train d'atterrissage qui était bloqué. Alors un des copilotes descend un peu dans un compartiment pour voir ce qui se passe. Après ça, le copilote descend aussi pour aider. Et le commandant, en quittant son siège, a accroché le levier du pilote automatique.
Oh là.
Sans s'en rendre compte.
Alors,
ce qui fait que l'avion était censé être en vol automatique à très haute altitude, mais là, ça descendait parce que le pilote n'était plus là.
Mais non, c'est ça.
Le pilote automatique n'était plus branché. Puis eux, ils n'ont pas entendu le signal d'alarme. Ils étaient occupés dans les soutes, c'est ça. Et lorsqu'ils s'en sont rendus compte, ben, il était trop tard. Et l'avion s'est écrasé. Et des gens qui sont là pour en témoigner.
Ils ont tout quitté le poste, c'est pour ça.
Ben, c'est ça.
Y a-t-il un pilote dans l'avion? Effectivement, là, c'est ça se le demander.
Alors, ce qui veut dire que cette histoire, évidemment, le côté surnaturel des choses a été nié par la compagnie. La compagnie a même poursuivi la maison de production qui a fait le film, le vol 401. Et je ne sais pas ce que ça a donné comme suite, s'ils ont perdu ou gagné, mais c'était une histoire vraiment... Et il y a tellement de témoignages, hein, les hôtesses qui ne sont pas mortes... Bon, etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais les trois pilotes principaux là, dont on parlait, là, eux n'étaient pas là pour raconter.
Non, c'est ça.
Et on raconte, lorsque je suis allé voir un peu plus loin dans les recherches, que les fameux Bob Love et tout ça qui apparaissaient, ils ont apparu encore dans d'autres appareils puis ils ont fait d'autres manifestations.
Donc,
ça a duré un bout de temps,
cette histoire. Puis ça, quand ça apparaît dans l'appareil, il y a quand même 150 personnes là, c'est autour. Tout le monde le voit, je peux pas croire.
Ben oui. Alors, c'est ça. Donc, légende urbaine, peut-être que oui. Et j'ai encore quelque chose après la pause à vous dire au sujet d'un cimetière.
Vous écoutez CFLC Balado sur Balado Québec. Vous pouvez nous regarder sur les pages Facebook, Ça fout la chienne, Capro Productions et celle de Pierre Duquet. Et sur YouTube, au même nom de chaîne.
Alors, cette fois-ci, c'est une légende urbaine du cimetière de Pallott's Knob.
Oh.
Il semble que...
Dans quel coin, ça? C'est en Angleterre?
On va peut-être... Dans le Kentucky. Le poulet Kentucky.
Du poulet frit? C'est ça. Hey, on pourrait manger ça ce soir.
Bon, bonne idée. Il n'y en a plus à Lévis.
Non, c'est vrai.
Alors, il semble que dans la fin des années 1900, dans une petite ville de Marion, au Kentucky, les gens pensent que Mary Evelyn Ford et sa mère Mary Rebecca Ford étaient des sorcières.
Ben...
Ils accusaient Mary Rebecca de posséder une alliance avec des forces démoniaques et sa fille de 5 à 6 ans, pensez-y, était également une sorcière.
Ben.
Il n'y eut aucun procès il fallait en finir rapidement, donc elles ont été brûlées toutes les
deux. Ben oui, à l'époque, on brûlait les sorcières. Non, mais une petite fille de 5 à 6 ans, tu te rends compte? Bon.
La mère, je ne peux pas dire que ça pouvait toujours aller. Là, ouais. Mais bon. Mais en 1900, c'est quand même étonnant qu'on ait pu faire ça. Là. C'est...
On aurait pu remonter au 16e, 17e siècle, alors, là,
c'est
effectivement.
C'est pour ça qu'on sommes-nous dans une légende urbaine. Dans l'ensemble, on verra. Et le cadavre carbonisé de sa mère a été enterré quelque part loin de Marion. Et la petite fille a été enterrée à la Knob Pilot. Et les gens du village croyaient que son esprit serait de retour pour se venger. Et ils ont donc enterré la jeune fille dans une tombe équipée d'armatures d'acier. Ouais. Ils ont couvert son cercueil de béton et de gravier à la place de la terre. Et ils ont entouré sa tombe d'une clôture blanche dont les barreaux forment des croix.
Ah.
Et selon le folklore de la ville, on affirme que l'esprit de cette petite fille ne peut traverser la barrière autour de sa tombe, mais elle adresse à toute personne voulant s'approcher de trop près, elle s'adresse à eux. Et on croit qu'elle serait capable de tirer un mortel dans sa tombe. Il est dit qu'elle fait des grimaces pour provoquer les gens afin qu'ils puissent obtenir d'eux qu'ils soient assez prêts pour vous tirer dans sa tombe. Et
ça fout la chienne.
Lorsque la petite fille apparaît, elle ressemble à n'importe quelle petite fille de 5-6 ans. Elle porte une robe blanche qui est brûlée en bas. Elle a de longs cheveux blonds. Les gens sont avertis de ne pas fixer sur sa tombe pour ne pas être happés. Mais ce n'est pas tout, Lucas.
Non, ce n'est jamais tout.
La légende dit qu'il existe également un observateur de l'autre côté de sa tombe.
Oh.
Il semblerait que ce soit une présence maléfique qui ne peut pas passer les croix en métal blanche lui non plus.
Hein?
Au lieu de cela, il tente d'arracher soigneusement son âme et chasse tout spectateur loin. Sa présence spirituelle est si forte que les poils de votre cou se dressent. Et cet observateur, dit certain, serait un homme assassiné.
Bon.
Belle légende, ça, hein?
Seigneur!
Ouais, as-tu envie d'aller dans le Kentucky vérifier ça, toi qui adores
les road trips aux États-Unis? Ouais, je sais pas, je ne sais trop, là, c'est... C'est embêtant. Peut-être avec un morceau de poulet, peut-être.
Kentucky. Est-ce que tu attendrais qu'on parle de la légende du bonhomme 7 heures?
Ah oui, moi je l'adore. Les enfants, vous savez c'est quoi le bonhomme 7 heures? Avouez-vous de coucher, parce que sinon le bonhomme 7 heures va venir te chercher.
Ça. Maman m'a fait le coup aussi.
Et voilà.
Puis il y avait le marchand de sable aussi.
Le marchand de sable, oui. En fait, c'est des boogeymen. C'est des...
Boogeyman.
Boogeyman. Boogeyman. Mais c'est ça, c'est des... C'est des peurs aux enfants pour les inciter, tu sais, un genre de couvre-feu. Hein, c'est...
Et je vais raconter une des légendes...
Croque-mitaine, c'est ce que je cherchais en français.
Les
fameux croque-mitaines.
Je pense qu'en France, il y a eu le père Fouettard, c'est ça. Qui provient de... Ben, je vais vous le dire, il y a très longtemps, il s'appelle Declan Setter. S-E-2-T-E-R.
OK.
Qui allumait des chandelles dans les lampadaires de la rue principale de la Chute au Québec.
Alors, okay,
à l'époque, il n'y avait pas encore de gaz.
On allumait les lampadaires dans la rue.
Alors, il allumait les lampadaires à la tombée du jour entre chien et loup. La noirceur n'était pas installée dans le comté d'Argenteuil, mais ce n'était pas tout à fait non plus pleine clarté. Et en fait, le vieux Setter était l'allumeur de chandelles comme son père l'avait été lui aussi. Alors, on écoute l'histoire.
Oh!
Dossier. Légende urbaine. Le bonhomme Setter, comme les gens de la chute l'appelaient, a grandi avec l'idée qu'il n'était un bon à rien. De plus, avec ses grands bras longs, des jambes à perte de vue, un long nez, un regard flou, il avait des airs de fossoyeur plutôt que de jeune premier, même quand il était jeune premier. Les gens changeaient carrément de trottoir à sa vue. Il n'a pas inventé la laideur et c'est tout juste. Il avait toujours dans les pieds des souliers trop grands, qui lui donnaient toujours l'impression de flotter. Avec son grand manteau noir qui traînait presque à terre, il voulait se donner des airs de cow-boy du Far West. Il avait toujours sur sa tête difforme un chapeau noir. Et en 1901, avec l'arrivée de l'électricité dans le comté d'Argenteuil, Declan Setter perdait son travail principal. Il n'y avait pas de place disponible pour lui à la chute Cotton Company. L'homme erra pendant quelques temps, avec le poids de sa vie sur ses épaules, dans la rue sale et transversale de la chute. Puis un jour, le cercle des bonnes dames du comté d'Argenteuil s'est réuni et
elles ont voté à l'unanimité pour engager le bonhomme Setter comme gardien officiel de la bienveillance. Sans le savoir, les femmes du comté ont créé un grand classique québécois. Enfin, Declan Setter avait trouvé un vrai sens à sa vie, une raison de vivre. Il recevait par la poste des demandes pour faire peur aux enfants avec des informations nécessaires. Des lettres officielles signées notariées. Faire peur aux enfants en 1901, c'était un métier honorable. Le 10 janvier 1901, il fait froid. La noirceur est partout, à grande heure sur la rivière du Nord. Le petit Daou joue seul sur la patinoire à ciel ouvert. Il est passé 7 heures. Une ombre noire s'approche du jeune Daou. Une ombre de 6 pieds 9. C'est très imposant. Declan Setter lui dit « T'as deux choix, mon petit gars. Tu retournes chez vous tout de suite. Puis quand ta mère te dit de rentrer, tu l'écoutes. » Sinon, je t'emporte avec moi dans les limbes pour l'infini. Tu vas voir que l'infini, c'est lent. Le petit Daou n'a plus jamais joué à la noirceur sur la rivière du Nord, plus jamais. Et en arrivant chez eux, il a dit à sa mère qu'il avait rencontré le bonhomme Setter. À ce moment précis, sans savoir, un légendaire personnage était né. La rumeur dans les cours d'école a vite fait son chemin. Tout le monde dans le comté d'Argenteuil en parlait. Le cercle des bonnes dames du comté ont respecté le secret entre elles. Le secret restait bien emmitouflé dans le cercle comme un précieux trésor. Même que les hommes de la région en savaient rien. Comme une traînée de poudre, la rumeur a fait le tour de la belle province, de la chute jusqu'aux limites du Labrador. Tout le monde partout disait avoir vu le bonhomme Setter dans son village ou sa ville. Mais la vérité, c'est qu'il ne travaillait qu'à la chute. Sa légende était tellement immense que même les enfants dans d'autres comtés rentraient avant la noirceur. C'est ainsi qu'au début des années 1900, tous les enfants de la belle province rentraient avant la noirceur d'eux-mêmes sans rechigner. Pendant un certain temps, les rues et ruelles des Anglais comme des Français étaient vides. Puis, le bonhomme Setter est mort, heureux dans son humble logis en 1919. Il est mort dans son sommeil, à ce qu'on raconte, avec le sourire aux lèvres. Un certain raconteur de la chute dit même que par les nuits froides d'automne, pendant que les feuilles des arbres vont mourir en tas pour amuser les enfants, on peut entendre murmurer sous forme de vent le bonhomme Setter, une fois la noirceur tombée.
En introduction, tu disais entre chien et loup. Alors pour les jeunes, il y en a, j'en entends déjà qui me disent, mais ça veut dire quoi, c'est entre chien et où le chien puis où le loup? C'est que veut dire cette expression?
Ben, c'est que le jour est encore un peu là. On appelle ça
la brunante.
La brunante, et le soleil est caché, mais il reste encore des lueurs.
Une clarté.
Puis
une clarté.
La noirceur approche.
Le soleil n'est plus visible, mais c'est toujours clair à l'extérieur.
C'est entre chien et loup, c'est beau comme expression.
Oui, c'est. Hein? Alors les enfants, retenez ça, remettez ça dans une dissertation, à un moment donné, une composition écrite à l'école. Vous allez surprendre votre enseignante, elle va tomber derrière.
Une pause et je reviens avec quelque chose d'encore étonnant.
Oh là là.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Alors, mon Dieu, alors tu disais que tu revenais avec quelque chose d'encore plus étonnant, mais qu'est-ce que c'est?
Est-ce que les jeunes connaissent les chiffres 666 selon toi?
Ah ben sûrement.
Ce que ça peut représenter.
Ah ben là, en tout cas, moi je le sais, là, c'est le chiffre du diable.
C'est ça, je ne suis pas... Le nombre du diable, donc 666, 3 fois 666.
Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Alors, parce qu'on a fait une belle route là, jusqu'à présent à parler de des légendes urbaines, mais là tu nous parles de quoi?
On parle d'une route encore.
Oh là là, quel beau lien!
On va s'y rendre jusqu'au bout. La route 666, l'autoroute du diable.
Oh.
Alors le nombre 666 est depuis, comme on vient de le dire, toujours un symbole du diable, et nombreux sont ceux qui ont tenté de percer son secret, ou de démentir son association au malin, au diable, à Belzébuth, comme on peut l'appeler n'importe comment, mais il reste toujours dans la conscience collective un nombre maudit, annonciateur de mort. La tristement célèbre route 666 se situe aux États-Unis à travers l'Utah, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Alors, ne pas confondre avec la route
66.
Alors, tout d'abord, la route 666 serait le théâtre de nombreux rituels et invocations sataniques, vu son nom. Cette route posséderait un grand taux d'accidents mortels, peut-être de moto, tant qu'à
dire,
et qui ont souvent lieu dans des circonstances obscures telles que des disparitions de cadavres ou de véhicules. Et ensuite, des témoins
assurerait avoir vu des chiens noirs aux yeux jaunes, aux crocs acérés, au bord de cette route, attaquant les voyageurs imprudents. Ça regarde mal.
Ben oui.
Et on croyait aussi que la route était hantée par de nombreux esprits, un camionneur fou qui faucherait les piétons imprudents à environ 200 km/h. Des esprits prendraient la forme d'animaux, se jetteraient sur la route dans le but de provoquer des accidents. D'autres s'inviteraient sur la banquette arrière des voitures et terroriseraient les automobilistes. Ah. Une jeune fille serait visible au bord de la route, okay, mais disparaîtrait dès que l'on approche. Des voitures sans conducteur y rouleraient, sans compter fantômes. Bien d'autres phénomènes étranges.
Ah, c'est fou quand même.
Et on raconte aussi que des conducteurs roulant sur cette autoroute auraient disparu pour réapparaître quelques kilomètres plus loin, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé.
Enlevés par des extraterrestres.
Et certains tribus s'est fait à la longueur de la route, ce qui provoquerait l'endormissement des conducteurs et tous ces phénomènes. Quoi qu'il en soit, après les nombreuses pétitions lancées par les riverains, l'autoroute du Diable a enfin changé de nom au profit de la route 491 et serait paisible depuis.
Eh ben, mais ils n'ont jamais pensé faire un film sur cette route-là. J'entends des éléments que tu dis.
On ne l'a pas vu.
Mais j'entends des éléments que tu dis, là, des phénomènes que tu as prononcés. J'ai vu ça souvent dans des films séparés, mais tout ça dans un même film, ça serait génial. Ouais. Il y aurait quelque chose à faire avec
c'est
ça.
C'est même étonnant que ça n'a pas été fait. Pour moi, il faudrait fouiller. Il doit y avoir un film là-dessus.
Sinon, écrivez-nous. Écrivez-nous pour nous faire découvrir ça.
Moi, c'est ça, parce que c'est quand même intéressant. D'ailleurs, ça pourrait faire un sujet d'un scénario qu'on pourrait réaliser à Lévis.
Tout à fait. Pour la web-série Ça fout la chienne. D'ailleurs, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. On vous invite à vous abonner.
Et puisqu'on est dans les légendes, toi, t'as un film qui s'appelle Légende ou qui traite de légendes?
Légende urbaine, sorti en 98. Alors, on plonge à la fin des années 90 dans un bon vieux slasher qui s'en fout pas la tête avec ça, tu sais, qui s'en fait pas trop à croire. Alors, je vous ramène à la fin de ces années-là. Je vous invite à écouter la petite capsule que je vous ai préparée.
Cinémaniaque, la chronique cinéma des passionnés de l'horreur, de l'épouvante, du fantastique et de la science-fiction. Cinémaniaque. 1998. Légende urbaine.
Les étudiants de l'université de Pendleton suivent assidûment les cours consacrés aux légendes urbaines qui évoquent des histoires terrifiantes dont on ignore l'origine. Lorsqu'une étudiante se fait violemment assassiner dans sa voiture par un inconnu, seuls Nathalie, Simon et le journaliste Paul croient en l'existence d'un tueur en série qui tue selon des légendes urbaines.
Alors, surfant sur le succès de Scream, Frisson, réalisé par Wes Craven en 1996, Urban Legend, tout comme le Pacte du silence à l'époque, est un slasher bien sympathique. Bon, qu'est-ce qu'un slasher?
Oui, j'allais te le demander.
Ben, en fait, c'est...
Mais qu'est-ce qu'un slasher, comme tu dirais, lui?
En fait, tout ça est arrivé, je te dirais, avec Halloween en 78 de John Carpenter, avec le fameux Michael Myers, donc un tueur masqué, armé d'un énorme couteau ou tout autre objet tranchant qui élimine une gang d'adolescents qui sont tous là pour faire l'amour et qui vont payer
de leur vie
parce qu'ils ne resteront pas vierges. Alors tout ce qui est Jason Voorhees vendredi 13 dans le fond du camp Crystal Lake, après ça est arrivé Frisson et là évidemment quand Frisson est arrivé, c'est parce que ça a relancé le film de slasher en se jouant des codes instauré depuis les années 70 dans les films de ce genre-là. Frisson, Scream est arrivé avec ça. Il faisait comme une mise en abîme. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Même les personnages dans le film disaient, bon, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire lors d'un film d'horreur?
Ouais.
Et donc, suivaient-ils eux-mêmes leurs propres conseils? Donc, ça a été un avènement en cette fin des années 90. Et là, évidemment, les studios de production ont vu la manne et se sont lancés dans ce genre de réalisation-là. Et donc, légendes urbaines, tous les ingrédients du genre sont donc réunis. Le campus, les jeunes, les hurlements, les courses-poursuites. Tout le monde peut être coupable et on se laisse volontiers prendre au jeu du chat et à la souris. Le tueur à la capuche, armé de sa hache, s'amuse bien en s'inspirant de légendes urbaines pour commettre ses meurtres. Ils sont plutôt fun, plaisant à regarder dans l'ensemble. Le film divertit et sans jamais faiblir dans le rythme. On retrouve des têtes bien connues pour les fans de films d'horreur, avec entre autres Robert Englund de la saga Freddy, donc Freddy Krueger, qui est enseignant, je pense, dans ce film-là. Brad Dourif, qui est la voix officielle de Chucky, la poupée, présente dans la scène d'ouverture, qui est très efficace. Donc un slasher classique, mais très valable pour le genre. Et petite mention, je l'annonce, je pense, presque officiellement dans ce bal balado aussi. Tu sais que dans notre magazine papier, où les jeunes sont abonnés, qu'ils le reçoivent par la poste, on a toujours une entrevue avec... avec un artiste du milieu de l'épouvante, de l'horreur. Et pour célébrer notre premier anniversaire, parce qu'en octobre va paraître notre 5e numéro, donc après un an, on célèbre notre première année avec, comme artiste invité, Robert Englund, donc le Freddy Krueger.
Sans blague!
Oui, il a répondu à nos questions, donc vous allez avoir une belle entrevue écrite à l'intérieur du magazine, du numéro 5 qui va paraître en octobre.
C'est une primeur provinciale, ça?
Ben, en fait, je sais pas, là, mais on est très content qu'il ait accepté de prendre le temps de répondre à nos questions, donc voilà.
Wow!
C'est à surveiller!
Et maintenant, tu nous as préparé quelque chose sur une... enfin, on peut pas dire que c'est une légende, c'est un fait réel, mais qui où il y a eu...
Ouais, enjolivement.
ouais, enjolivement, et une légende qui a tourné autour, et ça s'est passé à Saint-Vallier, ça s'est passé un peu à Lévis aussi.
Ici à Lévis. La fameuse légende de la Corriveau, donc c'est l'heure de l'histoire à foutre la chienne. Alors, je vous ai préparé cette histoire au bord du feu.
Il est l'heure de se faire peur, avec une histoire qui fout la chienne. La légende de la Corriveau. Tout le petit village de Saint-Vallier s'était rassemblé à l'église paroissiale en 1749 pour célébrer les noces de la jeune et belle Marie-Joseph de Corriveau. En cette belle journée de printemps, Marie-Joseph te prenait pour époux un jeune fermier, beau et riche, du nom de Charles Bouchard. Le matin du 17 avril 1760, les voisins virent arriver la belle du village, terrorisée, échevelée et hors d'elle-même. Elle raconta alors que ce matin-là, elle avait découvert son mari sans vie dans le lit. La douleur de la jeune veuve semblait si réelle que personne ne soupçonna rien. Cependant, les gens du village se sont mis à douter de quelque chose lorsqu'ils virent la belle Corriveau, 3 mois seulement après la mort de son premier mari, prendre pour époux, en seconde noce, un dénommé Louis Dodier. Les jours passèrent et les soupçons s'effacèrent peu à peu. Jusqu'au jour où, le matin du 27 janvier 1763, on trouva le corps de Louis Dodier dans son écurie, le crâne fracassé. Cette fois, la justice s'en mêla. L'enquête rapporta les faits suivants. Louis Dodier n'avait pas été frappé par les crampons de son cheval, mais bien par une fourche de fer qui fut retrouvée près de son corps, encore maculé de sang. Les enquêteurs exhumèrent même le corps du premier mari pour découvrir que sa mort avait dû être causée par du plomb fondu qu'on lui aurait versé dans les oreilles pendant son sommeil. Les preuves s'accumulèrent et les gens du village n'eurent plus l'ombre d'un doute de la culpabilité de Marie-Joseph de Corriveau. Le procès eut lieu devant une cour martiale, le seul tribunal qui existait alors dans le pays. Elle fut exécutée à la manière ordinaire, pendue sur les plaines d'Abraham. Après l'exécution, on forgea sur le cadavre une cage de fer que l'on suspendit sur la pointe Lévis, croisement des 4 routes principales à l'époque, où l'on retrouve aujourd'hui une maison au coin des rues Saint-Joseph et Saint-Laurent. On prétendait que la Corriveau descendait de sa potence la nuit et suivait les voyageurs attardés. Quand l'obscurité tombait, elle s'enfonçait dans le cimetière pour assouvir son appétit à même les tombes nouvellement fermées. Un maléfice régnait sur la route où les passants qui s'arrêtaient trop longtemps étaient victimes d'accidents fréquents, jusqu'au jour où un prêtre conjura ce sort. On voyait des fantômes, on entendait la cage grincer du haut de l'arbre, tout en voyant des monstres et des loups-garous demander la Corriveau en mariage. La cage de la Corriveau fut descendue pour être enterrée dans un espace réservé dans le cimetière à côté de l'église. Ce n'est qu'en 1830, alors qu'on agrandissait le cimetière, qu'on découvrit la vieille cage de la Corriveau. Aujourd'hui, on retrouve la cage de la Corriveau au Musée de la Civilisation où elle fut rapatriée en 2015, depuis le Boston Museum. Mais il semblerait qu'encore aujourd'hui, tard dans la nuit, au coin des rues Saint-Joseph et Saint-Laurent, on pourrait entendre encore grincer la cage, bien qu'il n'y soit plus depuis longtemps.
Ouais. Il y a des versions...
Encore ici sur la rue Saint-Laurent,
dis, là? Oui, oui! Saint-Joseph-Saint-Laurent, la maison sur le coin, là.
L'as-tu déjà entendu, toi?
Ben, c'est rare, je me promène dans ce coin-là à minuit et demi, 3 heures du matin.
On y va tout à l'heure.
D'accord. On va aller prendre un petit digestif là-bas. Mais bref, voilà, puis il y a des versions de cette histoire qui disent qu'elle a eu jusqu'à 7 maris assassinés, là, donc évidemment, bon.
Oui, ils en ont mis un peu.
Ils en ont mis un peu.
Il y en avait qu'un seul, dans le fond.
Là. Je pense que oui, au final. Alors, voilà, ben, si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous informer, il y a plein de trucs à ce sujet-là. Et oui, notre coin de pays, notre patelin, recèle plusieurs histoires étonnantes.
Alors, là, on se quitte là-dessus.
Oui, un petit rappel, juste en terminant, qu'on va avoir la soirée qui fout la chienne le 5 octobre prochain du côté du Patrou de Lévis, donc un grand happening, un genre de salon du livre mêlé avec un com-com, donc avec des artistes invités, des auteurs de romans jeunesse d'épouvante.
Des fantômes.
Et la distribution jeunesse de notre web-série Ça fout la chienne qui va être présent sur place. On va avoir des panels d'invités. Ça va être franchement chouette. Pierre, tu vas y être. Et je vais y être aussi. Notre magazine va être là. Si vous voulez vous abonner, on va être là. Donc, venez faire votre tour.
Et moi, je rappelle que vous pouvez écouter la version illustrée de ce balado sur YouTube, à ma chaîne Pierre Duquet,
Ça fout la chienne,
Cabot Productions,
aussi Ça fout la chienne sur Facebook,
et sur Facebook,
et Balado Québec, version sonore.
Seulement.
Alors sur ce, continuez de faire travailler votre imaginaire en vous racontant des histoires qui foutent la chienne, et sur ce, on vous dit
au revoir.